France Inter.
Le journal Hélène Philippe, bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. La Ligue 1 de foot passe commande auprès de McDo. La chaîne de fast-food devient le partenaire titre principal de la compétition à la place d'Uber Eats. Un accord qu'on décrypte dans un instant, l'intérêt des uns et des autres. On entendra le coup de colère d'un médecin aussi. C'en est assez du CETA, le vote du Sénat sur la ratification du traité de libre-échange. Rejeté, le gouvernement dénonce un coup politique en pleine campagne des européennes. Gouvernement fragilisé aussi par un déficit public qui dérape à plus de 5%, c'est désormais une certitude. L'actualité, c'est encore un rein de porc greffé sur un patient vivant, peut-être une réponse à la pénurie de dons d'organes. Une saisie de cocaïne, 2,7 tonnes sur le port du Havre. Nous sommes à la Courneuve pour la marche blanche hommage aux jeunes Wanis. Et puis on vous parle de Reddit, le réseau social qui entre en bourse ce soir à New York. Juste après ce journal, le téléphone sonne. Prends l'eau. On parle d'eau de baignade, évidemment, dans la Seine cet été et plus généralement dans les cours d'eau, dans les lacs. Vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter.
La Ligue de football professionnelle a donc choisi le menu Maxi Best Of, la chaîne McDonald's, pour remplacer Uber Eats en tant que partenaire stratégique de la Ligue 1 pour les trois années à venir. Et l'enseigne devrait débourser 30 millions d'euros par an, bien plus que l'accord actuel, pour apposer son nom à côté de la compétition phare du foot en France. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Hélène.
Comment tout cela s'est-il fait?
Alors c'est la fin d'une collaboration de 4 ans. La société de livraison ayant décidé de se désengager tout simplement après avoir injecté 15 puis 16 millions annuels pour accoler son nom au championnat de France de football. L'entreprise américaine ne souhaitait plus continuer à ce prix-là. Le contrat de sponsoring incluait un affichage tous azimuts, mais aussi des loges dans les stades, dont le Parc des Princes, où n'évolue plus Messi ni Neymar, et où Mbappé ne va plus jouer normalement la saison prochaine. Alors McDonald's avait les épaules pour investir. On parle de 30 millions d'euros. Selon les dernières informations, ce serait peut-être un petit peu moins, en tout cas à pratiquement 75 millions d'euros jusqu'en 2027. De l'argent pour la Ligue de football professionnel qui n'a toujours pas finalisé la vente de ses droits télé pour les 5 prochaines saisons.
Et quel est l'intérêt pour McDonald's?
Alors ce n'est pas forcément la rentabilité, mais plutôt l'image. C'est en tout cas la conviction de plusieurs économistes du sport qu'on a pu joindre aujourd'hui. Parmi eux, Pierre Rondeau, spécialiste des questions d'argent dans le football.
Là où ça a pu jouer, c'est au niveau de la réputation. McDo fait beaucoup pour améliorer sa réputation et pour sortir un peu de ce carcan de junk food. Fait beaucoup en matière de made in France, avec mise en avant de viande et de produits issus vraiment de l'agriculture française. Ils sont en France, pays de la gastronomie, et c'est McDo qui est maintenant le naming de la Ligue 1 française. Donc c'est un intérêt vraiment de réputation, au-delà d'un intérêt économique.
Alors reste à peaufiner la communication pour McDonald's, qui a travaillé ces derniers temps sur la manière de présenter son partenariat avec la Ligue professionnelle du premier sport en France.
Effet de réputation pour McDonald's, même si certaines stars de la Ligue 1 vont s'en aller. En attendant, la malbouffe à beau jeu, regrette le docteur François Carré. Il est cardiologue médecin du sport. Il suit les patients atteints de maladies chroniques au CHU de Rennes.
Nous avons de plus en plus d'enfants en surpoids, obèses, et là, voilà ce qui est choisi pour le foot qui est adoré par les enfants. Donc vous voyez, on se retrouve devant une ligue qui prend McDonald's comme partenaire. L'année de la grande cause nationale, qui est l'activité physique et sportive, c'est la première fois que c'est l'activité physique et le sport. Il y a quand même un message que j'ai du mal à comprendre du football professionnel, on peut me dire tout ce qu'on veut. Il rate quand même des grandes occasions. Nous avons de plus en plus d'enfants en surpoids obèses. Nous avons des enfants qui ont des diabètes de type 2, qui était une maladie de l'homme de 40 ans. Maintenant, c'est des enfants de 14 ans, 15 ans qui l'ont. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Chaque fois qu'on va voir maintenant un match de foot qui va apparaître à la télé ou que vous allez les voir, vous allez avoir des panneaux où vous allez encore avoir quelqu'un qui mange un énorme hamburger. C'est un très mauvais message que donne la Ligue de football.
Voilà le docteur François Carré que vous avez joint tout à l'heure. Merci Jean-Pierre Blimaud. La question de la malbouffe qui a aussi été soulevée par des joueurs ces dernières années. Cristiano Ronaldo pendant l'Euro 2020 qui avait remplacé une bouteille de Coca par un verre d'eau en conférence de presse. Kylian Mbappé avait lui refusé de s'associer à Coca et KFC, partenaire de la Fédération Française de Foot, jusqu'à 2028 au moins. Et puisqu'on parle de foot et de sponsor, sachez que l'équipe allemande va passer chez Nike après plus de 70 ans avec Adidas, le partenaire historique entreprise qui a été fondée en Allemagne.
Ça dérape et sérieusement.
Journée branle-bas de combat sur le fond du déficit publique. Rarement ce chiffre suscite autant d'intérêt. Mais le ministre des Comptes publics lui-même a dû admettre que le déficit serait supérieur à 5% à quelques jours de la publication officielle de l'INSEE. Ni une ni deux, le rapporteur de la Commission des Finances au Sénat s'invite à Bercy pour un petit coup de pression aux aires de perquisition à la recherche de chiffres précis. Il en est ressorti avec une prévision à 5,6%. Ça n'a jamais été aussi haut hors période de crise. Et voici le gouvernement accusé de gestion budgétaire calamiteuse, Maxence Lambrec.
Oui, attaquer Emmanuel Macron sur sa crédibilité économique. C'était l'un de ses derniers marqueurs. Il est en train de s'effacer, se réjouit un pilier de la droite. La France sera officiellement mardi l'un des pires élèves de la zone euro en termes de déficit. L'Espagne vient par exemple d'annoncer un chiffre meilleur que prévu, 3,7%. Il ne pourra pas nous faire le coup de la conjoncture internationale. Ce n'est pas Poutine le responsable, tranche un député de l'opposition. Ce chiffre n'ébranle pas pour autant la conviction d'Emmanuel Macron. Aucune hausse d'impôts à l'horizon, il l'a redit hier soir lors d'un dîner à l'Élysée où le slogan n'a pas changé. Le plein emploi, c'est la solution. Si on avait le PIB de l'Allemagne, on n'aurait pas de déficit, glisse un ancien ministre. Plutôt donc augmenter les ressources, la productivité que diminuer les dépenses. Même si on aura du mal à échapper à un budget rectificatif cet été, estime un proche du président, on est trop loin de la trajectoire. Après les 10 milliards d'économies dans les caisses de l'État, l'exécutif va se tourner vers les collectivités locales, vers certaines dépenses sociales, débat autour des transports sanitaires, de la prise en charge des maladies chroniques, de l'indemnisation du premier jour d'arrêt maladie, mais surtout ne pas parler d'austérité, répète-t-on dans l'exécutif. C'est un mot qui a tendance à gripper la machine, affaiblir la consommation et donc les recettes fiscales.
Maxence Lambrec pour l'explication, et à cela s'ajoute un vote qui s'est transformé en piège pour la majorité au Sénat aujourd'hui. Les communistes ont profité de leur niche parlementaire pour mettre à l'agenda le vote de ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, voté par les députés en 2019 mais jamais soumis aux sénateurs. Le revoici donc sous les projecteurs en pleine crise agricole et campagne européenne, et les sénateurs ont massivement rejeté l'accord. Laurence Perron, vous êtes en direct du Sénat où le gouvernement dénonce un coup politique électoraliste.
Oui, le ministre du Commerce extérieur, a pourtant tout donné, Franck Riester.
Je veux dénoncer par avance ce qui serait donc une manœuvre grossière, une manipulation inacceptable, aux lourdes conséquences pour notre pays.
Sans doute un peu trop pour un Sénat habitué à être traité avec égard, le sénateur communiste Fabien Gay assume de faire de la politique, puisque, dit-il, le gouvernement refuse d'en faire.
Ici, je redis, on n'est pas un club de bridge ou de belote. Nous, on a pris une initiative parlementaire. Alors évidemment, ça ne plaît pas au gouvernement, parce que c'était à lui de le faire. Il a refusé de le faire depuis 7 ans. Et donc c'est évidemment, dans un moment de crise agricole, où un certain nombre d'agriculteurs et agricultrices dénoncent les traités de libre-échange, à quelques semaines des élections européennes, mais bien sûr.
À ceux qui accusent la droite d'avoir perdu sa boussole ou voté avec la gauche protectionniste, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, répond sereinement.
Moi, je suis contre le protectionnisme, mais je veux un libre-échange qui soit loyal, pas de concurrence sauvage. Mais pourquoi est-ce qu'on condamne notre agriculture alors qu'on va importer des pratiques, des molécules qu'on interdit en France ? Nous sommes dans un nouveau monde et on voit bien que les États se protègent.
L'accord est indubitablement plombé, mais le gouvernement dispose encore de la possibilité de le faire voter par l'Assemblée nationale. En l'absence de majorité, cela reste toutefois extrêmement risqué.
Laurence Perron avec Selim Guerribi depuis le Sénat, et c'est un rejet diversement apprécié par les professionnels. Une bonne nouvelle, se félicitent les éleveurs bovins, alors que la filière des vins et spiritueux qui profitent des conditions de ce traité de libre-échange y voit un vote surréaliste. Les États-Unis attaquent Apple en justice pour pratiques anticoncurrentielles, accusé de monopoliser le marché des smartphones avec son iPhone. C'est la première action de cette envergure aux États-Unis, alors que le géant fait déjà l'objet de poursuites en Europe, menacé avec Meta et Google d'une enquête antitrust. Américains, Européens et Chinois étaient à Bruxelles ce matin pour parler nucléaire, signe du retour en force de l'atome à la faveur de la guerre en Ukraine qui a tari les sources énergétiques, en particulier en Europe. Angélique Bois était sur place.
Dans leur déclaration finale, ces pays clament haut et fort leur détermination à faire du nucléaire un élément clé pour la transition énergétique, avec un engagement à mieux collaborer, à accélérer la recherche et l'innovation dans ce domaine et à lever des fonds privés et publics pour la financer, à soutenir aussi les pays qui ont récemment ajouté l'atome à leur palette palette énergétique. Interrogé, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a insisté sur la complémentarité de cette énergie avec les renouvelables.
Si on regarde les besoins d'énergie dans les années à venir, on va devoir investir dans toutes les technologies. Ce sommet n'est pas un sommet qui est contre quelque chose. Si on a un élément qu'on veut éviter au maximum, c'est les fuels fossiles. Mais si on veut les diminuer rapidement, on aura besoin de toutes les autres technologies.
Avec 100 réacteurs dans 12 États européens, le nucléaire produit aujourd'hui un quart de l'énergie de l'Union. Une soixantaine de nouveaux réacteurs sont envisagés, ce qui est une folie pour les militants écologistes venus manifester. Pauline Boyer, de Greenpeace France.
Chaque euro dépensé dans l'énergie nucléaire ne sera pas un euro disponible pour le développement des énergies renouvelables, moyen le plus rapide et le moins cher de produire de l'énergie bas carbone.
À la tribune, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déploré que cette énergie soit, dit-il, prise en otage par des approches idéologiques. Pour encourager les investissements dans cette filière, il faut convaincre d'autres pays à venir avec nous, a souligné de son côté le président Macron.
Angélique Bouin à Bruxelles, où les dirigeants européens ont enchaîné sur un conseil européen l'aide à l'Ukraine au cœur des débats, avec la possibilité d'utiliser l'argent des avoirs russes gelés, notamment.
Très grosse saisie de cocaïne sur le port du Havre.
Les douaniers ont mis la main sur 2,7 tonnes de drogue, plus de 2400 pains de cocaïne. Charlotte Coutard, France Bleu Normandie, Rouen.
La cocaïne a été découverte dans un conteneur en provenance de la Guadeloupe. La juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée à Paris s'est saisie de l'affaire. Une enquête pour importation de stupéfiants en bande organisée a été ouverte. Le port du Havre est la principale porte d'entrée de la cocaïne en France. Plus de 10 tonnes de cette drogue ont été saisies sur le port normand en 2022, deux fois plus qu'en 2017. Même si le port du Havre reste une porte d'entrée secondaire par rapport à d'autres grands ports européens. Des moyens supplémentaires pour aider les douanes du Havre à lutter contre le trafic de cocaïne ont été annoncés il y a deux semaines par le gouvernement. 15 postes supplémentaires de douaniers à la rentrée de septembre. Un scanner mobile de containers qui permet de contrôler 6 fois plus de containers que les scanners fixes. Les douanes du Havre vont aussi bénéficier de 4 nouveaux LAPI, des lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation.
Les saisies de cocaïne qui ont été multipliées par 5 en 10 ans en Europe, à Marseille après l'opération PlaceNet XXL, ce sont finalement 22 kilos de stupéfiants qui ont été saisis. Près d'un millier de personnes à la Courneuve. Marche blanche ce soir en hommage au jeune Wanis tué dans une collision avec la police mercredi dernier à Aubervilliers après un refus d'obtempérer. Vous êtes sur place. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir Hélène.
Autour d'une foule recueillie où l'on voit aussi des slogans qui réclament justice.
Oui, la famille de Wanis qui a appelé au calme, mais cette marche blanche a scandé les mots de police assassin tout au long du parcours de la Courneuve à Aubervilliers. De très nombreux collégiens et lycéens, des mères de famille venus exprimer une colère froide.
C'est pas bon là, c'est pas un, c'est pas deux, ça va s'arrêter quand ? On en aura le bol. La police, oui, peut faire son travail correctement, peut aller faire des fiches de recherche, il y a plein de choses qu'on peut pour attraper la personne. Mais pas comme ça, rentrer dedans ou... Et dire après que c'est un accident, non, c'est inacceptable.
Mon petit frère a été tué volontairement par la police, a déclaré le grand frère de Wanis. Les plus jeunes venus participer à cette marche blanche disent ne plus se sentir en sécurité.
On a grandi avec eux, on est une famille ici. On est une famille, donc de voir que ça nous arrive à nous, en fait, on en a marre, on est triste, on a mal au cœur de voir comme ça et toujours aux mêmes personnes.
Une marche blanche pour que ces violences policières s'arrêtent, demande ce père de famille.
Là, c'est juste un temps de recueillement, un temps de silence. Et il faut que tout ça cesse. Comme souvent, c'est des gamins de 17 ans. On a tous été jeunes, on a tous eu 17 ans. Et ils avaient en tout cas encore beaucoup d'années à vivre et beaucoup de choses aussi à partager. Et mourir en 2024... Pour un refus d'obtempérer, c'est compliqué quand même.
Wanis, qui aurait fêté ses 19 ans aujourd'hui même, ce 21 mars.
Laurent Kramer avec Eric Audra à la Courneuve et plusieurs enquêtes sont ouvertes après ce drame. Le Premier ministre promet de retrouver les auteurs des menaces envoyées à plusieurs lycées de région parisienne. Aujourd'hui, via les espaces numériques de travail, il y avait déjà eu toute une série d'alertes à la bombe ces derniers mois dans un certain nombre d'établissements de France. Gabriel Attal annonce une réunion le 4 avril sur la sécurité des écoles, 150 à 200 particulièrement à risque, juge-t-il. On apprend ce soir que la justice ordonne de nouvelles expertises dans l'affaire Grégory, le petit garçon dont le corps avait été retrouvé dans la Vologne il y a 40 ans maintenant. Et puis une enseignante est renvoyée en correctionnelle pour harcèlement sur mineur, une professeure de français accusée d'avoir harcelé, d'avoir humilié en classe l'une de ses élèves, Eva L, 11 ans. La collégienne s'était suicidée en 2019 dans le Val d'Oise.
Vous connaissez Reddit ?
C'est un réseau social, 268 millions d'utilisateurs mensuels, plus connu aux États-Unis qu'en France. Il fait son entrée en bourse ce soir à New York, valorisé potentiellement entre 6 et 7 milliards d'euros. Bonsoir Xavier Demani.
Bonsoir Hélène.
On parle là, il faut le dire, d'un pionnier du web, mais aussi d'un véritable ovni.
Oui, créé en 2005, presque aussi vieux que Facebook donc, mais c'est vraiment leur seul et unique point commun. Reddit, c'est un monde à part, emblème du web libertaire, un monde de geeks si l'on caricature un peu, et en même temps l'un des sites donc les plus consultés au monde. L'interface est restée longtemps rudimentaire, à nous rappeler les débuts d'Internet, souvent jugée trop complexe par les néophytes et accusée de renoncer à son identité au moindre changement par ses utilisateurs les plus fidèles. Tout se passe dans des dizaines de milliers de forums et sous-forums, les subs. On y vote sur la pertinence des publications et surtout on y parle de tout, on commente absolument tout, quitte parfois à franchir quelques limites. C'est aussi une communauté très puissante qui s'est déjà attaquée à Wall Street par le passé. Là, des actions ont même été réservées aux plus gros contributeurs. C'est enfin un site qui n'a jamais stabilisé son modèle ni dégagé de bénéfices et cherche donc de l'argent. Il mise notamment sur l'intelligence artificielle dont il pourrait tirer profit en vendant ses données pour entraîner les algorithmes.
Et la dernière introduction en bourse d'un réseau social à New York, c'était Pinterest.
2019.
2019. Merci Xavier Demani. Les galeries Lafayette sont loin de tutoyer les mêmes sommets, mais elles sont sauvées pour l'instant. Le tribunal de commerce de Bordeaux a donné son feu vert au plan de sauvegarde de continuation d'activité présenté par l'homme d'affaires Michel Ohayon pour les 26 magasins qu'il détient en région. C'est un premier soulagement pour le millier de salariés concernés, mais il n'est pas total pour la déléguée CFDT Muriel Scanzi.
Un demi-soulagement, parce que, bon, quand même, on sait qu'on reste toujours avec Monsieur Ohayon. Voilà, il y a toujours cette crainte, quand même, de la pérennité de l'entreprise. Hein. Petite méfiance par rapport aux promesses qui n'ont pas été tenues, des investissements dans les magasins, les rénovations des magasins. Donc là, on va voir ce qui va se passer.
Muriel Scanzi avec Maxime Deps. Ce sera peut-être une réponse à la pénurie chronique de dons d'organes. Pour la première fois aux États-Unis, des chirurgiens ont transplanté le rein d'un porc génétiquement modifié sur un patient vivant. L'opération a eu lieu il y a une semaine. Le patient âgé de 62 ans se remet bien et c'est un motif d'espoir important pour Philippe Wolf. Il est coordinateur des prélèvements et transplantations d'organes aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
La xénogreffe, c'est un réservoir, disons, inépuisable de greffons à ce moment-là qui serait disponible. On a des anticorps naturels qui sont dirigés contre le cochon, qui sont très virulents, ce qui fait que quand vous greffez un rein de cochon, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une réaction de rejet hyper aigu, c'est-à-dire vos anticorps qui sont présents en grand nombre et virulents dans votre corps vont neutraliser tout de suite ce greffon qui appartient à un cochon. Alors on a, entre guillemets, humanisé les cochons, c'est-à-dire qu'on a supprimé ces antigènes porcins et on a ajouté dans ces cochons des gènes humains. Ça rend leur réaction de rejet, une fois greffée à l'homme, ça l'atténue considérablement. On va voir ce que ça donne. Mais face à la pénurie, toutes les solutions doivent être étudiées.
Philippe Wolf avec Victor Dolande. 22 000 patients sont en attente d'un don en France. C'est à la manière d'Elon Musk que sa start-up Neuralink communique aujourd'hui sur cette prouesse technologique. Les images filmées en direct d'un patient tétraplégique jouant aux échecs grâce à la pose d'un implant cérébral. Prouesse, oui, même si les scientifiques critiquent la méthode, sans publication, sans relecture des pairs. Ce n'est qu'un point de départ, insiste-t-il. Et si l'on parle d'intelligence artificielle, est-ce ou non une révolution? Plus de 60% des Français pensent que ça l'est, selon le troisième baromètre de l'esprit critique des Français réalisé par la Cité des sciences et de l'industrie. 2000 personnes majeures ont été interrogées. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Et il en ressort que les sondés ont une image positive des sciences, teintée de prudence tout de même, surtout sur l'intelligence artificielle.
Oui, à votre avis, Hélène, à quoi les Français s'intéressent le plus? t'attire-t-il le plus, la politique, le sport ou les sciences?
Oh bah je dirais comme ça, le sport ou peut-être les sciences.
Les sciences, voilà. 7 sondés sur 10 s'intéressent
plus
qu'aux deux autres sujets. En priorité, la santé et l'écologie. Mais cette année, le baromètre cible l'IA. En majorité, ces sondés, tous âgés de plus de 18 ans, vous l'avez dit, la voient comme une révolution, au même titre que le fut l'imprimerie. Ils gardent cependant un œil critique sur elle. 85% pensent nécessaire une régulation de l'IA et affirment qu'elle pose de nouvelles questions éthiques et juridiques. D'ailleurs, pour 6 personnes sur 10, l'IA n'est pas créative, ni innovante, et même pas fiable. Qui pour évaluer les risques de l'IA? Les scientifiques, ils sont plébiscités, un peu plus que les musées de sciences et les journalistes scientifiques. Et oui, pourtant ce ne sont pas dans des revues spécialisées type Epsilon, excellent magazine scientifique grand public, ni Science et Avenir, ni encore La Recherche que les Français vont chercher l'info, mais bien sûr Internet en grande majorité. Et pour les plus jeunes, les réseaux sociaux restent aussi une source d'information plus que la télé et la radio. Globalement, les 3/4 des sondés disent avoir l'esprit critique, être capable par exemple de changer d'avis face à des arguments convaincants et deviner d'où leur vient cet esprit critique. Des enseignants d'abord,
évidemment,
des parents aussi et des amis. Ce baromètre est à retrouver sur le site d'Universcience.
L'école, source de transmission, on compte aussi sur vous, Sophie Becherel.
Absolument, merci beaucoup Hélène Philly.